Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission De l'art dans les oreilles. Je suis aujourd'hui au musée d'Aquitaine de Bordeaux avec Christian Bloch, attaché de conservation au musée. Bonjour, bonjour à vous Christian Bloch.
Bonjour.
Alors nous sommes dans l'exposition qui est à l'affiche en ce moment au musée jusqu'au 30 avril, Tromelin, l'île des esclaves oubliés. Et le parcours de visite commence par une maquette de cette île de sable où à la fin du 18e siècle, vous allez nous l'expliquer, un navire de la compagnie française des Indes orientales a fait naufrage dans l'océan Indien. Et sur cette île de sable de à peine 1 km², des esclaves ont été laissés, abandonnés, oubliés. C'est une histoire qui est finalement pas très connue. Cette exposition fait aussi raconte cette histoire et a le mérite aussi de mettre en lumière des fouilles archéologiques qui ont eu lieu depuis plusieurs années sur cette île. Racontez-nous un peu cette histoire de ce naufrage justement.
Alors, l'exposition, effectivement, pour thématique, une aventure humaine tout à fait incroyable, où ne va cesser d'ailleurs d'alterner le pire avec le système esclavagiste qui est le concept et le contexte, finalement, du naufrage, puisque c'est un navire négrier qui va faire naufrage et qui va faire qu'un certain nombre, donc, de ces esclaves survivants vont se retrouver abandonnés sur cette île, et le sublime avec les solidarités qui vont se mettre en place entre justement ces naufragés pour assurer leur survie dans un environnement qui est totalement hostile. Donc la première des choses, c'est que c'est une exposition d'histoire et d'archéologie, mais qui ne laisse absolument pas insensible par sa matière. Et la muséographie qui a été conçue par la production du musée de Nantes, avec une itinérance qui est faite au musée de l'Orient de Bayonne et actuellement à Bordeaux, et de mettre en exergue justement la réalité tout à fait incroyable de ce naufrage, puisque comme vous l'avez dit, nous nous trouvons devant une maquette qui présente finalement le côté tout à fait incroyable de cet îlot perdu au milieu de l'océan Indien, 1 km², 1700 mètres de long pour 750 mètres de large, à flanc donc d'un volcan avec des abruptes qui très rapidement permettent d'avoir des bas-fonds à plus de 4000 mètres. Et puis surtout, un îlot qui est émergé finalement pour une altitude maximum que de 7 mètres, dans un couloir où passent des cyclones et dans lesquels les dépressions cycloniques font s'élever le niveau de l'eau, avec une multitude de rugissants et de déferlants qui font que l'île peut effectivement être parfois totalement submergée.
Alors, il faut préciser, oui, c'est vraiment une île de sable et donc il n'y a pas d'arbres, c'est tout plat et on se demande comment des personnes peuvent survivre ici. Effectivement, des vents, des cyclones, c'est presque impossible de construire un bâtiment ou une cabane, c'est tout de suite balayé par le vent.
Alors, tout ce que vous dites est vrai, la nuance importante étant dans le presque, puisqu'ils ont réussi ce défi impossible. Il n'y a pas d'arbres, nous sommes pourtant dans un espace qui est très chaud avec le soleil qui tape directement dessus, donc il n'y a pas de possibilité d'ombre. Il y a très peu de végétation, essentiellement des arbustes pour lesquels on ne peut pas se protéger, qui ne fournissent aucune alimentation, qui seront utiles en revanche pour le feu. Il y a également un déséquilibre de l'île avec une partie au sud qui est constituée de roches finalement nues, de la beach rock, par rapport aux vents qui sont importants, des vents qui peuvent atteindre 200 km/h, qui ne descendent rarement en dessous de 30. Donc un vent permanent et une langue de sable ensuite qui se met essentiellement au nord et qui a donné ce nom à l'île de sable qui a été découverte en 1722. Le tout entouré évidemment d'un récif et d'une barrière corallienne qui fait qu'il y a énormément de houles et de déferlantes, de rugissants avec une érosion qui a créé des cuvettes en quelque sorte dans lesquelles les forces de l'eau en mouvement sont énormes et donc c'est un piège. C'est une prison sur laquelle il ne peut y avoir aucune survie, du moins peut-on l'estimer, et pourtant ces naufragés, chose incroyable pour certains d'entre eux, parce que la mortalité évidemment va être importante, mais pour certains d'entre eux ont réussi à survivre sur cet espace totalement inhospitalier, démuni de l'essentiel, et bien pendant 15 ans. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, dans un premier temps, ils ont trouvé de l'eau. Il y a une cuvette naturelle qui fait que l'eau des précipitations se trouve être enfermée. Et ils ont pu repérer à travers une petite végétation très faible qui montre qu'il y a de l'eau. Et puis, il y a également de la ressource alimentaire avec notamment la ponte des tortues ou l'existence d'une espèce donc d'oiseau dont il a été possible de faire de la consommation.
Ah oui, pour se nourrir, pour s'alimenter.
Voilà. Et donc l'eau était assurée, la nourriture était assurée, mais avec des carences.
Nourriture quand même qui est juste axée sur un seul aliment.
Bien sûr.
Pratiquement.
C'est pour ça qu'avec des carences tout à fait incroyables, et les survivants qui ont été découverts avaient des manques physiologiques vraiment de grande importance. Et puis la possibilité de se protéger, notamment du vent et des intempéries, grâce à un travail incroyable qu'ils ont fait pour tailler des pierres issues donc de cette beach rock qui est au sud de l'île. Et donc c'est avec ces très faibles et ces très maigres ressources, dans des conditions tout à fait dantesques, qu'ils ont réussi à assurer cette survie. Et cette maquette donc dans l'île, justement, je pense, impressionne le public, parce qu'on se rend compte finalement à quel point on est au milieu de nulle part.
On est au milieu de nulle part, donc... Vous l'avez dit, c'est une histoire incroyable qui intéresse et qui interroge aujourd'hui les archéologues. Juste pour revenir un peu en arrière, en fait, l'histoire débute à Bayonne en 1760. Un navire qui s'appelle l'Utile donc, part vers l'océan Indien. Où il doit aller, ce navire? Est-ce que c'est un navire négrier à l'origine? Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire pour qu'on se remette un peu dans le contexte de l'époque?
Bien entendu. Donc, le contexte, c'est tout d'abord celui de la Compagnie des Indes Orientales. Et le navire, qui est une flûte marchande, l'Utile, n'est pas un navire négrier. C'est un navire donc de commerce qui appartient à la Compagnie des Indes Orientales, qui a le monopole.
C'est une compagnie qui va faire du commerce.
Elle a le monopole du commerce au-delà du cap du cap de Bonne-Espérance, pour aller faire du commerce notamment entre la métropole et les comptoirs de l'Inde et de la Chine, en passant par les bases relais que sont les Mascareignes, l'île de France et l'île Bourbon, qui ont été colonisées à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle.
Donc, l'île de France, c'est l'île Maurice.
Voilà.
Et les Mascareignes.
Les Mascareignes, c'est l'ensemble, c'est Madagascar, tout à fait. Donc l'île de France et l'île Maurice et l'île Bourbon, c'est la Réunion. Donc, ce navire appartient à la Compagnie des Indes, des inscrits, typiquement dans ce cadre-là. Or, nous sommes dans un contexte international qui est tendu, avec la guerre de 7 ans, qui s'étend entre 1756 et 1763, et où les Anglais, depuis la bataille des Cardinaux de 1759, ont pris l'avantage naval. Et c'est la raison pour laquelle la Compagnie des Indes va faire construire en réalité l'Utile de manière subreptice à Bayonne, et non pas à l'Orient comme cela aurait dû être le cas, en mettant tout un en place, tout un système évidemment d'armement pour que ceci soit possible. Et il est décidé que ce navire ira donc faire commerce.
Il y avait des chantiers navals
à Bayonne qui a été mis en place. Voilà. Chantier naval que l'on voit d'ailleurs, et c'est dans l'exposition, que l'on voit d'ailleurs à travers le tableau de Joseph Vernet sur la vue et le port de Bayonne, puisque le navire central qu'il y a est un navire donc qui s'appelle le Friesland, qui est sous pavillon hollandais, c'est pavillon neutre, mais en réalité c'est un navire qui travaille pour la France, de manière à assurer le ravitaillement et l'avitaillement pour la sortie en carène du navire donc l'Utile. Donc il y a tout un système qui se met en place justement dans le cadre de ce contexte belliqueux. Et en novembre 1760, donc, l'Utile, qui avait déjà pareillé donc, de Bayonne, qui se trouvait dans un port espagnol à cause de cette croisière anglaise, appareille cette fois-ci définitivement pour aller rejoindre l'île Maurice dans le cadre de ses échanges commerciaux. Et c'est quand le navire arrive à l'île Maurice que le gouverneur Boucher des Forges donc, le voit arriver, qu'il va le missionner pour aller à Madagascar pour aller chercher du ravitaillement de l'île qui est sous blocus britannique, avec interdiction absolue de ramener des esclaves. Pourquoi ? Parce qu'il y a la menace donc anglaise, et il ne faut surtout pas qu'il y ait des bouches supplémentaires à nourrir, et également prendre le risque aussi d'une révolte sur l'île avec donc les Anglais qui sont à proximité. Et fi de cette interdiction, le capitaine Lafargue de l'Utile, avec un grand nombre de complicités, va participer à une opération de traite à full pointe, où il va prendre le ravitaillement demandé par le gouverneur, mais où il va embarquer aussi également 160 esclaves en fraude. Et ceci est d'une très grande conséquence. Parce que comme c'est de la fraude, il ne va pas prendre la route sûre du sud pour gagner directement l'île Maurice. Il va prendre la route du nord fort peu sûre avec des hauts fonds qui sont assez imprécis par la cartographie de l'époque, des courants, des vents qui sont assez hostiles et puis surtout des voies qui ne sont pas empruntées. Donc s'il y a un naufrage, très peu de chances de secours.
Là, il y a une grosse prise de risque.
Il y a une énorme prise de risque, d'autant plus accentuée que Lafargue, capitaine, rentre en conflit avec son second Castellan du Vernet, dont je vous reparlerai, parce que les deux ne veulent pas s'appuyer sur les mêmes cartes. Et quand on juxtapose ces cartes, pour vous dire, la différence des côtes, c'est à peu près l'équivalent de la largeur de Madagascar. Autant dire qu'ils sont dans le flou, dans le flou total. Et le capitaine, par orgueil, pour montrer qu'il a l'autorité sur son second, va accélérer, ne va prendre aucune mesure de précaution la nuit. Et le naufrage a lieu le 31 juillet 1761, donc sur l'île, où le navire prend de plein fouet, effectivement, l'ensemble de ses récifs. Sur les 140 hommes d'équipage...
Il fait naufrage parce qu'il n'a pas vu l'île ou...
Ah non, là, on est en pleine voilà. Nuit. Ça ne se voit pas. Il est sûr, de toute manière, de la route qu'il suit. Donc, je veux dire, il dort tranquillement sur ses deux oreilles avant d'être réveillé à 22h le 31 juillet.
Il s'échoue, donc, voilà. Enfin, il prend l'île de plein fouet. Et donc, cette île qu'on voit sur cette maquette. Et on va, du coup, aller dans la suite de l'exposition, pour la suite de l'histoire.
Donc là, l'exposition est divisée en deux manières. Vous avez le rez-de-chaussée qui est la partie historique avec sa contextualisation et l'étage qui est le résultat des fouilles archéologiques. Donc là, nous rentrons dans le premier espace historique avec tout un ensemble de modules. Et sur ce premier module, vous voyez justement ce dont nous parlions un petit peu, l'explication de la création, du rôle, des enjeux, de l'histoire, donc de la Compagnie des Indes orientales et à travers les objets exposés, les différents échanges, les différentes marchandises qui sont faites, avec à l'importation le café, le coton, ou par exemple aussi, puisque le but est d'aller avec les comptoirs d'Inde et de Chine, la vaisselle, hein, vous voyez la porcelaine chinoise que nous avons également présentée ici, ou les fameuses cotonnades et indiennes. Et puis dans la perspective, vous avez ici cette maquette tout à fait remarquable, pour laquelle là, j'attire vraiment l'attention, parce que c'est un ex-voto, navire Le Dromadaire, qui appartenait à la Compagnie des Indes, également orientale, et qui a fait naufrage en 1762. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de naufrages.
Voilà, à la même période.
Au Cap-Vert cette fois-ci, et ça témoigne quand même de la dangerosité de ce métier-là pour les marins et de la rigueur aussi des investissements, d'où la raison pour laquelle, à tort hein, d'ailleurs, certains s'efforçaient par fraude justement de chercher d'autres expédients.
Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que c'était, assez régulier que des esclaves sur les navires de la Compagnie des Indes orientales soient pris en charge à bord ?
Oui, alors ça dépend dans le cadre évidemment du commerce qui peut se faire, hein, bien entendu.
Historiquement, on doit avoir des informations.
Oui, bien sûr, oui, c'est quelque chose qui se fait largement. Il y a de la pratique négrière, ne serait-ce que pour Bordeaux, par exemple. Il y a énormément donc de pratiques négrières à la fin du XVIIIe siècle, en particulier en relation avec les mascareignes, parce que comme Bordeaux a commencé tardivement, mais va le faire de manière intense, la traite négrière, tous les comptoirs occidentaux de l'Afrique sont déjà occupés par les concurrents européens, anglais, hollandais, espagnols, portugais, et donc les Bordelais vont aller essentiellement sur les comptoirs de l'Afrique orientale et de Madagascar. Donc c'est quelque chose qui est largement effectivement utilisé. Là, c'est même quelque chose qui est assez exceptionnel, puisque le gouverneur interdit de charger des esclaves, ce qui sous-entend qu'en dehors de cette interdiction, c'est une pratique qui est donc régulière. Et là, c'est une fraude parce qu'il y a une interdiction, évidemment, de la part de l'autorité liée au contexte militaire. Mais il est vrai que l'utile, de ce fait, dans le cadre de son armement, n'est pas configuré comme un navire négrier classique. C'est un navire donc qui s'adapte au fil, excusez le terme, de sa cargaison telle qu'elle se met en place. Et là, qui aboutit en plus un drame venant se surajouter, puisqu'il y a cette question du naufrage. Dans l'exposition, donc à travers les modules qui sont mis en place et les frises, hein, voilà, on met vraiment en place tout ce qui va concerner la dynamique finalement du drame. Et nous avons dans les collections de très beaux objets, par exemple comme ces cartes là ici, vous voyez cette superbe carte. carte, une carte réduite de l'océan oriental ou mer des Indes, sur lesquelles vous voyez apparaître des lions, des éléphants. C'est assez extraordinaire et qui témoigne à travers toutes ces voies que vous voyez, les routes de navigation qui sont employées par les navires. Et puis surtout là, ce qui nous permet dans cette zone nord de voir ici notamment tous ces hauts fonds, tous ces bancs et autres, et ce petit point infinitésimal là, vous voyez au nord de Madagascar, qui apparaît et qui porte ce nom donc douloureux aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, d'île de sable devenue l'île de Tromelin.
Et est-ce que l'histoire donc assez incroyable de l'île de Tromelin, où il y a des survivants 15 ans après ce naufrage, est-ce qu'on a d'autres exemples dans l'histoire de personnes qui ont vécu sur une île complètement déserte et qui ont réussi à survivre plusieurs années ?
Alors il y a plusieurs cas de naufrage. En revanche, de cette ampleur pour la durée et le groupe et la communauté qui est en place, non, c'est un cas qui est assez exceptionnel, mais qui n'est pas exceptionnel d'ailleurs que sur ce point de vue. Moi, c'est un élément, là c'est un sentiment à titre personnel que je donne, mais c'est un naufrage qui a une particularité, notamment à travers, je veux dire, le manque d'espoir qu'il y avait auprès de cette population. On peut imaginer, abandonné sur cet îlot, les solidarités et le génie et la force qu'ils ont mis pour la survie. C'est quelque chose qui ne se retrouve pas dans tous les naufrages. Je pense par exemple au naufrage du Batavia qui a fini dans le sang, le naufrage de la Méduse qui a fini dans le sang, où justement le désespoir et la folie l'ont emporté.
Alors même que là, du cannibalisme peut-être.
Même du cannibalisme, donc dans certains autres naufrages, hein, ça c'est une certitude. On n'a pas de traces en revanche dans les restes qui ont été découverts et les fouilles archéologiques. Donc il n'y a pas eu de cannibalisme à l'île de Tromelin parce qu'ils ont mis en place justement les systèmes avec les maigres ressources que donnait l'île, eh bien pour ne pas tomber dans le cadre de ces excès. Et ça montre qu'ils n'ont pas cédé ni au désespoir, ni à la folie, et que finalement ces gens à qui le système esclavagiste du XVIIIe siècle déniait la dimension et la dignité humaine, oui, eh bien ont fait preuve d'une humanité dans le cadre de ce qu'elle peut avoir de plus sublime dans son génie et dans sa solidarité, qui aujourd'hui est une leçon pour comprendre, appréhender notre propre nature et notre propre capacité à faire face à l'adversité dans des conditions extrêmes qu'ils ont vécues et qui, à mon avis, dépassent bien l'entendement.
Alors ces conditions, on les connaît mieux aujourd'hui grâce aux fouilles archéologiques. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est une sorte de manuel de survie qu'on pourrait appliquer ?
Non, je ne le pense pas parce que vu ce qu'ils ont vécu comme d'autres personnes dans d'autres éléments, je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir un manuel de survie, parce que le premier élément, c'est les ressources à mon avis que l'on a de manière interne. En revanche,
c'est au cas par cas.
Donc je ne souhaite à personne d'être abandonné de toute manière, d'avoir besoin d'un tel manuel. En revanche, c'est une leçon. Ça c'est certain, c'est une leçon de survie. C'est une leçon de solidarité, c'est une leçon de force. Voilà. Il y a eu la force de la nature qui est intervenue dans les décès, dans la mortalité. Évidemment, l'inégalité physique des uns ou des autres y a joué. Mais voilà, ils ont trouvé au-delà des ressources que l'île offrait, ils ont trouvé le moyen de rendre ces ressources nécessaires, même qu'elles soient minimalistes, mais nécessaires et utiles à leur survie. Donc, ce n'est pas un manuel, parce que j'espère que personne n'en a besoin. Mais en revanche, oui, c'est une leçon. Moi, quand j'ai monté cette exposition avec ma collègue, au-delà des interrogations qui se posent sur un certain nombre de principes, de systèmes économiques qui ont existé, qui interrogent sur nos sociétés, quelles qu'elles soient, qu'elles soient européennes, africaines, asiatiques et autres, la question, voilà, je veux dire, des ressources, des capacités que l'on a. Et comme je vous disais en introduction, cette exposition, c'est vraiment un voyage dans le temps et dans l'espace, mais c'est un voyage aussi entre le pire qu'est capable de faire l'humain en mettant ses semblables à l'esclavage, et le meilleur qu'il est capable de faire, notamment pour assurer sa survie, mais sa survie collective. Parce que là, il n'y a pas eu de cas d'individualité. Je veux dire, il y a un groupe de 7 femmes et d'un enfant qui sont sauvés sur 160 esclaves, parce que 80 sont morts directement dans le naufrage. Et en 15 ans, la mortalité va se faire. Et il va y avoir des tentatives, vraisemblablement aussi, d'aller chercher des secours avec des hommes et des femmes qui se perdent en mer. On a un cas très précis qui est connu dans ce cadre-là. Et l'enfant, à travers cette leçon dont je donne, l'enfant qui est né est un enfant métisse.
Donc c'est l'enfant qui a 8 mois qui est retrouvé en 1775.
En 1776, parce qu'en 1775, il y a eu une première tentative de sauvetage qui a échoué. Il y a un marin courageux qui a pris le risque et au péril de sa vie d'aller sauver ses esclaves sur l'île, mais s'est retrouvé finalement échoué parmi eux. Et il est le père de l'enfant. Timaview, donc la naufragée, a témoigné de son amour pour cet homme, en le reconnaissant finalement comme étant son père, et lui-même finalement ayant sa femme et son fils sur cette île, va faire la dernière tentative finalement pour aller chercher de l'aide, et il va avec ses connaissances maritimes construire un radeau avec une voile faite de plumes, parce qu'il n'y a aucun textile, pour essayer de rejoindre Madagascar. Et hélas, on ne les retrouvera jamais. Et 2 mois après, un navire de sauvetage, la Dauphine, du chevalier Tromelin, d'où le nom de l'île Tromelin, va venir sauver évidemment les derniers naufragés qui sont sur place et cet enfant. Et donc vous voyez qu'on commence finalement, c'est une vision de l'esprit certes, mais je la souligne, on commence finalement cette histoire par la ségrégation raciale. Et on termine cette histoire par un enfant métis. Donc je veux dire, de tous les endroits que l'on prend finalement avec humanité cette histoire vraie, on est dans ce voyage, dans cette oscillation qui interroge notre nature humaine. Et moi, je l'ai bâti avec mes collègues, je la présente avec mes collègues dans ce sens-là, parce que c'est une leçon pour tous d'humanité.
Voilà. Alors, on va s'intéresser maintenant peut-être aux conditions justement de survie, comment ils ont survécu concrètement, comment était leur habitat, qu'est-ce qu'ils ont mangé, vous l'avez un peu évoqué.
Alors,
tout à
ça,
l'heure.
Alors pour ça, vous avez
est-ce
toutes les...
Est-ce qu'ils ont construit, est-ce qu'ils ont creusé?
Vous avez toutes ces réponses à l'étage et donc je vous invite à me suivre pour qu'on puisse aller voir ça en détail.
Ce qui pose question aussi, c'est que finalement, Madagascar n'est pas très loin. Aucun bateau n'est jamais passé près de l'île et qui aurait pu sauver les personnes.
Non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une route qui est très peu empruntée. C'est pour ça que le capitaine Lafargue l'a empruntée, puisqu'il avait ses esclaves donc qui étaient en fraude. Pourquoi ? Parce que ce sont des routes qui sont dangereuses du fait des hauts fonds. Et lorsque les survivants de la Providence, c'est-à-dire le navire qui a été bâti par les membres de l'équipage survivant à partir des restes de l'épave, ont atteint Madagascar en ayant abandonné les esclaves cette fois-ci sur l'îlot, donc ont relaté leur aventure, et le second Castellan Duvernay, qui aurait pu se taire, est allé voir le gouverneur et a avoué la faute de la fraude et a demandé d'envoyer des secours. Donc on voit quand même que cet homme-là a eu un acte de conscience, et j'y reviendrai parce qu'il en aura d'autres. Pendant 15 ans, il ne va cesser de
donc
se battre.
Donc lui, il a culpabilisé.
Oui, vraiment, oui, sûr.
Pendant 15 ans, et il a essayé de dire il faut aller les chercher, voilà. Mais personne n'y est allé pendant 15 ans.
En 1772, il écrit une lettre après que la Compagnie des Indes ait fait faillite au ministre donc de la Marine, où il commence cette lettre de cette manière: l'humanité m'engage à vous faire part. Et il relate le naufrage et il fait tout pour qu'une mission soit envoyée pour aller chercher d'éventuels survivants. Donc c'est un homme qui a connu une tempête sous son crâne, ça c'est certain, parce qu'il a été confronté à sa conscience, puisque lorsqu'il l'abandonne, parce que le capitaine Lafargue avait complètement démissionné, tombé dans une prostration totale, lorsqu'il abandonne ses esclaves parce que le navire La Providence est trop petit, il fait la promesse de venir les rechercher. Et pendant 15 ans, il va tout faire pour que cette promesse soit effectivement honorée, et elle le sera en 1776. Et lorsqu'ils arrivent au lendemain du naufrage, puisqu'ils partent en septembre 1761, qu'ils arrivent à Madagascar, ils demandent immédiatement à ce que des secours soient envoyés. Et le gouverneur refuse. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le contexte de la guerre de 7 ans et qu'il ne veut pas risquer un navire qui serait pris par la croisière anglaise. Et donc c'est ainsi que petit à petit va y avoir une fin de non-recevoir, que beaucoup vont aussi s'efforcer d'étouffer évidemment l'affaire, qui commence à faire grandement scandale, parce que si il était entendu qu'on puisse mettre en esclavage ses congénères, en revanche, la question de cet oubli et de cet abandon n'était pas quelque chose qui était accepté acceptée par la société. Et les milieux abolitionnistes vont évidemment par la suite prendre cet épisode navrant donc du naufrage de l'Utile pour dénoncer toute la barbarie du système esclavagiste. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'enjeux finalement qui interviennent. Et pour répondre à votre question, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de navires qui sont arrivés avant 1775.
Et pourquoi en 1775 du coup ?
Parce que la lettre donc est écrite en 1772 au ministère de la Marine, et le temps que les précisions, que les rapports, que l'armement, que les organisations et que l'ordre final de Paris atteignent Port-Louis dans l'océan Indien, il a fallu attendre 3 ans. Et 1776, final, pourquoi ? Parce que le premier navire de sauvetage, la Sauterelle, arrive et n'est pas équipé pour faire face aux déferlantes de l'île. Et donc le canot de sauvetage chavire, et c'est la raison pour laquelle ce matelot se retrouve au milieu donc des derniers survivants et qu'il sera le père de cet enfant qui devient le symbole de Tromelin, et qu'en 1776, donc quelques mois après, le deuxième navire, la Dauphine de Tromelin, cette fois-ci arrivera pour les sauver, et fort de l'enseignement du problème de la chaloupe qui a chaviré, viendra avec une pirogue qui, elle, sera capable de résister aux déferlantes.
Alors, ici, on est donc à l'étage où on a le résultat de fouilles archéologiques qui se sont déroulées donc sur cette île pendant plusieurs années. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est une exposition conçue par le Musée d'Histoire de Nantes et l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Alors, ici, que nous apprennent les fouilles sur l'île de Tromelin ?
Alors là, les fouilles révèlent finalement le récit muet de la détresse des esclaves, parce que si nous connaissons le contexte par les archives, la vie quotidienne finalement sur l'île, jusqu'à ces missions archéologiques de 2006, 2008, 2010 et 2013, était totalement inconnue. Première chose que l'on voit, c'est que l'épave a servi effectivement à travers ses restes de matière, de ressources, de matière première, mais dans des conditions tout à fait dantesques, parce que les éléments sont tellement déchaînés que l'on peut être rapidement se noyer. Néanmoins, on voit que l'épave a été capable de donner un certain nombre d'éléments de bois qui a servi à des armatures, qui a servi à créer ce navire La Providence et qui a servi aussi peut-être de bois de chauffage, mais aussi à travers sa cargaison d'un certain nombre d'éléments qui sont en plomb et qui sont en cuivre. Et cette matière première va servir à créer des outils ou des ustensiles qui vont être nécessaires à la survie, et notamment à créer des contenants qui seront utiles à conserver l'eau issue des précipitations ou issue du puits qui, je le rappelle, est quand même situé à pratiquement 800 mètres du campement, ce qui veut dire 1,5 km pour aller chercher de l'eau, pieds nus dans du sable, avec des organismes affaiblis et des contenants faits de briques et de broc. Donc vous comprenez qu'il y avait une nécessité finalement d'avoir des contenants qui ne soient pas trop lourds et qui soient importants, et des ustensiles qui soient utiles et efficients.
Et pourquoi le puits a été construit aussi loin du lieu d'habitation ?
Parce que c'est l'endroit où, le seul endroit où ils ont trouvé de l'eau. S'ils n'avaient pas trouvé ce puits dès les 48 heures du naufrage, le sort de tous les naufragés était scellé en 96 heures, ça c'est certain, au regard des températures. Mais il y a une espèce de poche naturelle qui se met, qui vient capter l'eau des précipitations, et donc sous l'île il y a finalement une poche d'eau, mais cette poche d'eau est saumâtre, parce qu'évidemment le temps que la filtration se fasse par le sable qui est rempli des salins provenant de l'océan, c'est une eau qui est essentiellement saline, mais suffisamment potable pour que les organismes puissent l'accepter sans mourir de soif.
Alors, en tout cas, il faut préciser que ce sont des fouilles à la fois terrestres et sous-marines. Sous-marines, donc, sur l'épave.
Oui.
Et je crois que retrouver une épave de bateau comme ça, complète, c'est assez rare en archéologie sous-marine.
Ah, mais c'est d'autant plus rare qu'on ne l'a pas retrouvée, parce qu'il n'en reste plus rien. Mm-hmm. Pour une raison bien simple, c'est que cette expédition de 2006, justement, montre la force des éléments. C'est-à-dire que toute trace matérielle de l'épave a disparu, tellement que le mouvement des vagues et des roches... Bon, vous imaginez que vous avez des cuvettes, finalement, de corail dans lesquelles vous avez avez un tambour de machine à laver. Donc plus rien ne résiste, coup, hormis ce qui est lourd, les matériaux lourds comme les métaux. Donc c'est pour ça, ces balles que vous voyez ici, des boulets, des éléments de céramique, des canons qui se sont retrouvés sur le bord de plage.
Donc, uniquement des objets en fait, voilà, pas d'ossature de bateau.
Au 19e siècle, lorsqu'il y a eu un deuxième naufrage sur Tromelin, les naufragés racontent qu'ils voient encore apparaître des éléments d'épave. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le seul objet symbolique et qui fait office finalement de croix, de sépulcre de ce drame, c'est cette encre, vous voyez, que l'on a sur les bords de plage et qui apparaît dans l'exposition en photo et qui est symbolique finalement de ce naufrage. Donc la mission de 2006 justement a permis d'avoir le cœur net, de comme quoi il ne restait plus de traces, mais a permis de découvrir aussi un certain nombre d'objets que les esclaves n'ont pas utilisés puisqu'ils ont été retrouvés dans ces éléments-là, mais à travers les matériaux et les matières premières qu'ils ont utilisées et que l'on retrouve dans les ustensiles qui ont été nécessaires à leur survie. Et pour preuve de la force de ces éléments, vous avez ici un fragment de la cloche du navire de bord et vous voyez qu'il n'en reste pratiquement plus rien. Donc vous imaginez une cloche de cette dimension qui est en bronze et dont il ne reste pratiquement plus rien, tellement qu'il y a ce brassage des éléments. Vous voyez la force qu'il peut y avoir dans cet endroit-là et on comprend pourquoi. C'est un endroit dans lequel on ne peut pas s'aventurer dans la mer parce qu'on risque immédiatement de se noyer et d'être broyé.
Donc les survivants ont quand même réussi à extirper de l'épave certaines choses qu'ils ont ensuite réutilisées, voilà, qui se sont réappropriées. Donnez-nous des exemples.
Alors, quand on parle des survivants, il y a deux périodes pour cela. Tout d'abord, au soir du naufrage, du 31 juillet jusqu'au mois de septembre, vous avez parmi les survivants les 130 hommes d'équipage et les 80 esclaves, donc survivants. Ce sont essentiellement les membres d'équipage qui vont récupérer quantité de choses de l'épave pour essayer de sauver ce qui peut être sauvable, faire un premier campement de bois et de voile qui va s'envoler au premier cyclone et coup de vent, bien entendu, et qui vont récupérer également de la farine. Et c'est la raison pour laquelle on a ici des briques réfractaires qui montrent qu'ils fabriquaient des biscuits pour assurer leur alimentation. Et c'est de ces éléments-là qu'ils vont fabriquer le navire de secours La Providence, qui permettra de charger uniquement les rescapés de l'équipage. Et donc au mois de septembre, lorsque l'équipage de la Providence s'en va, il ne reste plus que, comme rescapé cette fois-ci, que les esclaves qui sont abandonnés sur l'île en ayant pour espoir la promesse de Castellan du Vernet. Et eux vont utiliser dès lors d'autres éléments de l'épave qu'ils sont peut-être allés chercher, ça je n'en sais fichtrement rien, ou qui sont déjà sur la plage, ou que la mer amène, ou des éléments qu'ils ont et qu'ils vont utiliser et que l'on voit ici aujourd'hui notamment à travers des réutilisations. Première réutilisation importante, vous voyez, c'est ce pot extraordinaire qui est fait à partir de balles de fusil, de boulets de canon. Il est fait en plomb et c'est un contenant nécessitant donc essentiellement la conservation, à la conservation de l'eau, puisque ça c'est quelque chose de fondamental. Et donc on voit qu'ils ont été capables de faire fondre finalement ces métaux et de lui donner cette forme pour avoir ce contenant. Donc s'ils ont fait fondre, ça veut dire qu'ils ont le feu. Et donc là ils ont récupéré un réchaud que l'on voit ici et ils ont utilisé les fusils et notamment les silex, les pierres à fusil, pour faire de l'eau pour faire du feu avec ce que l'on appelle les briquets à silex qu'ils avaient donc également. Et ces silex, on les voit, sont énormément usés parce que pendant 15 ans, il a fallu assurer ce foyer. Et donc tous les éléments d'ustensiles que vous voyez ici, comme cette plaque de cuisson, comme ces casseroles, sont soit le résultat d'ustensiles de cuisine récupérés dans l'épave, soit d'une fabrication propre qui a été faite à partir des plaques de cuivre récupérées sur le navire. Donc ils ont mis en place un artisanat de survie tout à fait important. Et moi, un des objets qui me parle le plus, c'est cette casserole là, vous voyez, cette sorte de poêle. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez qu'elle a été cassée, que le manche a disparu. Et puis vous allez voir un premier rivetage et puis un deuxième rivetage.
Donc elle a été raccommodée.
Puis de l'autre côté, un troisième rivetage, elle est raccommodée. Et ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'ils n'ont jamais baissé les bras.
Oui.
Qu'ils ont toujours trouvé la force pour survivre. Qu'ils avaient toujours cet espoir d'être sauvés. Voilà. Ou que la vie, de toute manière, quelles que soient ses conditions, méritait quand même d'être vécue. Et ça, c'est une sacrée leçon.
C'est-à-dire qu'ils ont peut-être toujours vécu avec l'espoir d'être sauvés.
Je ne sais pas ce qui alimentait. À mon avis, au bout de 15 ans, cet espoir a quand même dû un peu disparaître.
Oui, mais ils ont quand même eu des enfants, il y a eu des générations qui se sont passées ou pas ?
Non.
Pas du tout. Alors, le seul enfant, c'est celui dont vous nous avez parlé tout à l'heure.
La question des enfants est problématique. C'est-à-dire qu'on a de toute manière là une marchandisation humaine, donc de personnes qui sont très jeunes, puisque les deux corps que l'on a découverts sont des corps que l'on date à peu près entre 15 et 19 ans, ou 19 et 24 ans. Ce sont donc des populations jeunes. Il est possible qu'à travers les jeunes filles ou les femmes donc, qui étaient mises en captivité, que certaines d'entre elles aient été enceintes. Mmh. Ça, on ne le sait pas avec certitude. Donc, il y aurait eu des accouchements, mais rien ne permettait finalement à ces enfants de survivre. Donc, le seul enfant, la seule naissance dont on est connaissance, dont on est trace, effectivement, c'est ce jeune enfant métis, âgé donc de 8 mois, au moment de son sauvetage. Mais il n'y a pas eu de génération, et on ne sait absolument rien de la vie quotidienne et de couple supposé qu'il y aurait pu y avoir. Les seules traces matérielles sont les traces vraiment des indices d'une vie quotidienne, où tout ce qui relève de l'alimentation à partir des tortues, à partir des oiseaux, à partir des crustacés, une faible partie de pêche, comme le suggèrent quelques hameçons dont on a apporté une part importante à la conservation, mais dans les ossements, on a très peu d'arêtes, très peu de choses de cette nature, parce que ce sont des esclaves qui viennent des hauts plateaux de Madagascar et non pas des littoraux, donc ils ne connaissent rien à la mer. Nous avons essentiellement une connaissance sur cette pratique-là principale. Sur les indices de la vie sociale, c'est un groupe qui doit assurer sa survie de manière collective, donc il y a une entente, il y a une collectivité, c'est pas un groupe qui sombre dans la folie individuelle, comme on a des cas précis sur d'autres naufrages.
Alors justement, ils vivaient où concrètement? Ils dormaient où? Et pour se protéger du vent également, ils ont dû redoubler d'efforts.
Les fouilles archéologiques terrestres, donc cette fois-ci, ont permis de mettre à jour un véritable petit hameau qui a été construit pour se protéger effectivement des éléments, montée des eaux, vent violent à plus de 200 km/h. Et donc nous avons ici une maquette qui relaie finalement le résultat de ces fouilles archéologiques, où nous voyons apparaître des pièces individuelles dans lesquelles donc il y avait un ou plusieurs naufragés, avec des évolutions également, des parties qui sont détruites et qui témoignent finalement de la violence des éléments qui, à un moment ou à un autre, ont détruit ces abris, des abandons et des parties plus récentes qui montrent qu'il y a eu aussi des changements, des évolutions ou surtout, hélas, un tassement, une concentration de cette population dont la mortalité et la démographie finalement ne cesse pour l'une d'être en hausse et pour l'autre évidemment d'être en baisse, et donc petit à petit le groupe se resserre sur lui-même, d'où des abandons également qui se font. Et alors là, ce qui attire l'attention et qui est un témoignage aussi de cette force de survie, c'est que nous avons affaire là ici à une architecture, vous voyez, qui est en pierre, avec des plaques de pierre qui sont sur le bas, qui montrent qu'ils ont été capables de découper donc des pierres de la beach rock qui est située au sud de l'île pour en faire des soubassements et des substructions sur lesquelles ils ont bâti évidemment les bâtiments, avec ensuite, vous voyez, cet amoncellement de pierres et des épaisseurs faites par des tassements de sable.
Alors comment ils ont découpé les pierres dans la roche?
Alors pour cela, ils ont fabriqué des outils. Comment ont-ils fabriqué des outils? En récupérant notamment des éléments de l'épave. Par exemple, ils ont transformé en masse ou en hache des gonds de sabord. Ces sabords, ces volets qui permettaient d'être levés ou d'être fermés sur les coques pour passer la bouche à feu du canon, eh bien, lorsque vous prenez ce gant, vous avez la possibilité de l'emmancher, et lorsque vous l'aiguisez, ça devient une hache ou ça devient une masse. Donc voilà comment ils ont taillé finalement ces pierres pour créer ces soubassements avec ces épaisseurs importantes de monticules de sable pour être capable de faire face à la violence des vents ou à la violence des flots. Mais ce qui est remarquable au-delà de ça, sachant que ça l'est déjà pas mal, c'est qu'ils ont été capables de surmonter, là aussi pour le prix de la survie, un tabou religieux incroyable. Parce que dans la religion malgache, les constructions en dur ne sont réservées que pour les morts, et ces abris ont d'ailleurs l'architecture des tombeaux malgaches. Et c'est des choses qui sont entièrement interdites aux vivants.
Ah, d'accord.
Or, eux, pour assurer leur survie, et donc refuser la mort, ont dû être dans cette inversion finalement de valeur. Donc on imagine quand même aussi les interrogations qui étaient les leurs par rapport à leurs croyances et comment finalement la vie est passée au-dessus de tout. Et encore un élément là aussi tout à fait remarquable de cette capacité de survie, de cette leçon de survie qu'ils nous transmettent.
Mais en même temps, ils enterraient leur mort peut-être sur l'île?
sur la question des morts, beaucoup d'interrogations subsistent.
Il y a beaucoup de morts, du coup, donc.
Parce que nous n'avons trouvé que deux corps. Il y a 160 esclaves. D'après les récits qui sont faits, la moitié meurt, donc ce qui nous laisse un chiffre de 80 esclaves qui sont abandonnés sur l'île. Très rapidement, il y a des blessés, il y en a qui se découragent. Allez savoir, la population baisse, d'autant plus que les esclaves n'ont eu accès à l'eau qu'une fois que les derniers matelots ont bu. Donc les plus affaiblis n'ont pas survécu du fait de ce système qui a été mis en place. Et très rapidement, on pense qu'on tombe à une quarantaine, cinquantaine de personnes, mais ce ne sont que des projections, parce qu'on n'a pas évidemment de comptabilité. Et à la fin, en 1776, il n'y a que 7 femmes et un enfant de sauvés sur 80. Donc il reste 72 corps, 70 corps quelque part. Nous ne les avons pas retrouvés, les archéologues ne les ont pas retrouvés, hormis ces deux corps qui viennent donc d'endroits qui ont été complètement chamboulés au niveau des strates muséographiques, puisqu'en 1953, il y a eu la construction de la station météorologique qui est en plein cœur de là où les esclaves s'étaient effectivement installés, puisque c'est la partie la plus haute de l'île. Mmh. Voilà. Et donc, peut-être que la nécropole était située en dessous. Oui. Ou peut-être tout simplement aussi que les corps sont dans un autre endroit qui n'a pas été mis à jour. Ou peut-être aussi que les corps étaient mis en bord de plage loin de l'habitation et qu'avec les cyclones et autres, la mer a repris finalement la dépouille des défunts.
Et peut-être que les deux corps enterrés étaient des personnages importants pour la communauté.
Alors ça, on ne peut absolument pas le dire, le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'on ne les retrouve absolument pas dans une situation originale, puisqu'on les retrouve dans les remblais des travaux. Donc ça, on ne peut pas le dire. Il n'y a rien qui permet de le souligner. On sait simplement qu'on a affaire à deux individus qui sont jeunes, qui sont morts assez tôt. Alors, qu'est-ce qui nous permet de le dire ? C'est que, comme je vous ai dit que les ustensiles qui étaient utilisés étaient des ustensiles qui étaient faits essentiellement en étain et en plomb, il n'y a pas de traces dans leur organisme, au niveau en tout cas de la matière osseuse, d'intoxication au plomb, ce que des esclaves qui seraient morts 10 ans après auraient obligatoirement. Donc, ils sont morts effectivement assez tôt, au regard de ces analyses scientifiques qui ont été faites sur les isotopes, tout cet ensemble de choses. Mais on n'a aucune information sur les rites funéraires, sur les rites sociaux, sur l'identité évidemment de ces deux défunts qui ne sont pas dans la strate archéologique qui était la leur initiale.
Alors Christian Bloch, on arrive à la fin de cette exposition. J'ai une autre question avant de se quitter. Il y a donc eu 7 survivants et un bébé. Ces 7 survivants, ils n'ont rien raconté après ?
Alors il y a eu un récit de Timaviou, la mère donc du jeune enfant, mais non, très rapidement ils disparaissent des archives de l'histoire.
En quelque sorte,
on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont été affranchis quand ils arrivent, quand ils sont sauvés, qu'ils arrivent dans les colonies, ils n'ont pas le statut d'esclave, ils sont affranchis, ce sont donc des hommes et des femmes, enfin des femmes de couleur libres. L'enfant est effectivement aussi également affranchi. On leur propose de les ramener à Madagascar, ce qu'ils refusent, parce que s'ils n'ont pas le statut servile dans les colonies, ils craignent que, comme ils ont été traités par les négriers malgaches des côtes littorales, eux venant des hauts plateaux, et bien d'être toujours considérés comme des esclaves ou d'être à nouveau revendus par ou d'être mal accueillis finalement par leurs compatriotes. Donc ça, c'est une dimension qui est importante et qui montre que le système esclavagiste est lié à la nature humaine dans son ensemble, hein, et que c'est quelque chose de très complexe. Donc ils refusent de retourner à Madagascar et ils restent donc dans les colonies, et très rapidement apparaît une trace de baptême du jeune enfant qui va perdre l'enfant, le nom que l'on ignore malgache qu'il a dû avoir, va avoir un nom catholique de Joseph Moïse, tout comme sa mère Timaviou, qui est son nom malgache, qui va être également rebaptisé. C'est une autre forme de violence qui peut nous interroger. Mais toujours est-il que, à part cet acte de baptême, bien très rapidement, on perd contact avec ces naufragés et on ne sait absolument pas quel est le devenir de cet enfant. Est-il mort tôt ? Est-il mort vieux ? Quelle a été sa vie ? On l'ignore. On espère qu'un jour des historiens se pencheront sur cette question, ce qui est fort probable au regard maintenant des découvertes qui sont faites. En revanche, l'histoire n'est pas restée silencieuse dès la question du naufrage, puisque les milieux abolitionnistes, très rapidement, vont s'emparer de l'horreur de cette histoire pour prendre la défense et surtout dénoncer évidemment toute l'horreur du système esclavagiste du XVIIIe siècle, avec des condamnations dans un premier temps qui sont indirectes et puis dans un second temps qui relateront clairement au fur et à mesure que les témoignages, que les informations arrivent, qui relateront clairement, évidemment, l'horreur de ce drame.
Voilà, donc une histoire aussi très importante de ce point de vue-là dans l'histoire. Merci beaucoup, Christian Bloch, de nous avoir fait visiter cette belle exposition qui est présentée au Musée d'Aquitaine de Bordeaux jusqu'au 30 avril, Tromelin, l'île des esclaves oubliés, une aventure humaine poignante et puis aussi une aventure archéologique assez extraordinaire, dont vous pouvez voir ici donc beaucoup d'éléments de fouilles qui ont été exhumés. Merci à vous, Christian Bloch.
Merci à vous.